C'est à se demander peut-être si le département de la Défense américain n'a pas voulu profiter de l'éclipse médiatique fournie par la crise de la COVID pour faire passer sous l'écran radar des informations assez fracassantes. En avril dernier, fin avril, le Pentagone a officiellement déclassifié 3 vidéos d'observation de phénomènes aériens non identifiés qui avaient été filmées par des pilotes de la Navy en 2004 et en 2015. Quelques jours plus tard, on en rajoutait une couche en rendant public 8 rapports de rencontres entre des pilotes de la Navy et des phénomènes aériens non identifiés en plein vol sur la côte est des États-Unis. Pour essayer de voir plus clair dans tout ça, Robert Lamontagne, astrophysicien, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique. Monsieur Lamontagne, bonjour.
Bonjour.
Et de la France, où il est en ce moment, François Louange, consultant indépendant, travaillant notamment en collaboration avec le GEPAN sur l'analyse des photos ou des vidéos présumées d'OVNI. Monsieur Louange, bonjour.
Bonjour.
Vous avez souvent fait de l'analyse d'images ou de vidéos. Est-ce que vous êtes resté mystifié parce que le Pentagone a accepté de déclasser? Parce qu'à ce jour, ils disent ne pas être capable d'identifier l'objet qui se retrouve sur l'écran radar de ces pilotes.
Oui, alors non, je n'ai pas été stupéfié par ces photos, par ces vidéos, parce que si vous voulez, je pense que réellement ces vidéos sont authentiques, qu'elles viennent vraiment de la Navy. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre trucage dedans. Je veux bien admettre que l'on n'ait pas à ce jour donné une explication définitive à 100%. Mais bon, j'ai l'impression qu'on fait énormément de bruit autour d'une affaire qui avait pris tout un tour médiatique dès 2017, parce que la première de ces vidéos avait fuité à l'époque vers tout le Stars Academy, avec toute une dimension de showbiz, etc. Ces vidéos ne m'ont pas... Alors, je ne les ai pas étudiées personnellement avec mon équipe IPACO, qui est constituée par 4 personnes qui ont une très longue expérience en analyse, hein, qui sont Antoine Cousin, un Français, qui sont Jack Quick, un Anglais, un ancien de la RAF, et Ruben Lanza, qui est le responsable argentin du centre équivalent du GEPAN en Argentine. Si vous voulez, ces vidéos m'ont rappelé une vidéo qui avait eu lieu quelques années avant et qui avait fait un grand bruit médiatique aussi au Chili, parce que bon, les nouvelles se superposent et on oublie les anciennes. Et au Chili, il était sorti une vidéo infrarouge prise par un hélico Cougar de la marine chilienne qui, pendant plus de 10 minutes et 4500 pieds d'altitude, avec une caméra à haute définition infrarouge, avait filmé une cible avec 2 points chauds, etc. Et je trouve qu'à l'époque, ce dossier m'avait été communiqué par le chef du CEFA, qui est le centre chilien qui étudie ces affaires-là, et que j'en avais fait une étude approfondie, enfin, du moins une étude de la vidéo, parce que je n'ai travaillé que sur cet objet, et nous étions les premiers à faire avec mes amis la démonstration que, selon une probabilité de 99,5%, il s'agissait d'un avion de ligne.
Mais François Louange, sauf votre respect, si le Pentagone, à ce jour, est incapable d'identifier ce que les radars ont capté, j'imagine qu'il y a un peu d'expertise parce qu'ils ont encore quelques budgets, ça demeure assez bluffant. Je vous pose la question, si eux n'arrivent pas à expliquer, comment vous pouvez l'expliquer ou peut-être qu'on doit juste accepter qu'il n'y a pas d'explication?
Non, la question n'est pas là. Je pense qu'ils ont raison de dire que c'est inexpliqué s'ils n'ont pas trouvé l'explication définitive. Ça ne veut pas dire que c'est des choses inconnues. Si vous voulez, le saut quantique qui consiste à dire, puisque c'est inexpliqué, on a des visiteurs extraterrestres, c'est une hypothèse qui est tout à fait ouverte pour un certain nombre de cas. C'est bien pour ça qu'on travaille là-dessus. Mais dans ces cas-là, si vous voulez, je peux reprendre très rapidement les 3 vidéos dont on parle. La première vidéo, qui s'appelle Tic Tac, de novembre 2004, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vidéo chilienne. C'est très probablement un biréacteur et il n'y a absolument rien d'étonnant dedans. Bon, la deuxième vidéo, qui est un peu plus intrigante quand on la regarde, qui s'appelle Jim Ball, de janvier 2015, c'est vrai que les gens sont très étonnés parce qu'on voit la cible qui a l'air de tourner. L'objet a l'air de tourner complètement. Sauf que, en réalité, et cela a été démontré par un excellent chercheur américain qui s'appelle Mick West, qui travaille sur le site Metabank, qui est un excellent site, que cette rotation apparente n'était pas du tout celle de l'objet, mais celle de la caméra qui est munie d'un système de dérotation automatique qui, dans certains cas, se met à tourner comme ça. Donc, à partir de là,
donc, l'explication... ce que vous dites, c'est que, pour l'instant, si vous citez...
Pour l'instant, on a une probabilité, si vous voulez, on a une explication possible il faut être toujours très modeste, elle n'est pas certaine à 100%, mais on a une explication très probable pour la première vidéo par un avion, pour la deuxième, très certainement un avion aussi. Bon, il faudrait creuser la question, il faudrait faire ce que l'on fait quand on dispose de toutes les données, c'est-à-dire des vidéos originales, des récits des gens qui étaient là, des enregistrements radar de toutes les stations autour qui sont susceptibles d'avoir couvert cette zone du ciel.
Mais justement,
mais à partir du moment où on a une explication probable, bon, ça veut dire que ça reste intéressant, mais il n'y a pas de quoi de stupéfier. On n'a pas quelque chose de qui nous intrigue beaucoup. On a vu des choses beaucoup plus intrigantes que ça dans le passé.
Ben, nous pourrons y revenir peut-être avec vous sur ces choses intrigantes. Ceci étant dit, les pilotes qui étaient à bord des avions semblent, eux, un peu médusés. On peut les écouter si vous le voulez.
Oui, j'ai entendu ça.
There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, whole thing, dude.
Alors, c'est des objets qui volent contre des vents assez dominants, 120 nœuds. Robert Lamontagne, vous êtes astrophysicien. Vous êtes sans doute intéressé au cours de votre carrière à ce genre de phénomène. Est-ce que d'abord, vous comprenez l'intérêt du Pentagone à livrer ces informations sans fournir d'explications?
Oui, il y a naturellement un intérêt pour le Pentagone, pour l'armée américaine, en fait pour les services militaires de peu près tous les pays, de s'intéresser à ce genre de phénomène parce que il y a potentiellement une menace pour la sécurité nationale. Peut-être qu'il s'agit de drones ou d'avions espions de pays, disons, plus ou moins amicaux. Et donc, il y a un intérêt à s'intéresser à ce genre de phénomène. Ensuite, comme le dit M. Douange, il faut comprendre ce que l'on voit. Et lorsqu'on entend justement la trame sonore où les pilotes semblent ébahis, il faut comprendre qu'ils voient exactement la même chose que l'on a vu dans les vidéos. Mmh. Eux, ils regardent un écran vidéo, un écran de télévision. Ils ne voient pas directement le phénomène. Donc, ils sont, je dirais, soumis aux mêmes aléas de la vidéo avec tous les artefacts du système de captation. Et donc, ils réagissent à froid,
oui.
À chaud plutôt, à ce qu'ils voient, mais ils n'ont pas encore, comme il n'y a pas d'interprétation, donc on a leur réaction immédiate, mais sans avoir une analyse fine.
Alors moi, j'ai pas vos expertises respectives, mais à chaque fois qu'on entend ces pilotes, lorsqu'ils sont interviewés plus tard, il y en a de nombreux qui ont fait face à ce genre de phénomène, ils ne font aucune supposition, ils ne spéculent pas, mais disent, avec toute leur expérience, ou se disent incapables de décrire ce qu'ils ont vu, et souvent vont même dire que ça défie les lois de la physique telles qu'ils les connaissent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut être simplement des illusions, selon vous? Ou justement le fait que le radar pourrait leur jouer des tours? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais que on est le cerveau humain peut facilement être bluffé, n'est-ce pas? lorsque l'on voit quelque chose, il peut y avoir des angles de prise de vue, des rapports focaux. On a de la difficulté à estimer les distances et les vitesses. Et donc, le cerveau humain est une machine à interpréter, n'est-ce pas? Et donc, on va regarder quelque chose, et si on n'est pas capable, dans notre grille d'analyse, de le coller à quelque chose de connu, on se dit ça ne peut pas être expliqué parce que l'on connaît. Mais encore une fois, il faut faire une analyse très fine des vidéos, des descriptions. C'est ce qui demande du temps.
on en aura probablement du temps parce que maintenant l'information est rendue publique. Le Pentagone avait officiellement jusqu'en 2012 ce bureau chargé d'étudier ces phénomènes, disons, anormaux, l'Advanced Aviation Threat Identification Program, qui théoriquement avait été abandonné. Or, on a appris que ce n'était pas vrai. Et la personne responsable du programme, M. Elizondo, disait en 2017 croire qu'il y avait des preuves assez irréfutables, en tout cas de phénomènes qui ne s'expliquaient pas. M. Louange, alors est-ce qu'il est lui aussi sous le coup d'hallucinations ou est-ce que ce sont des suppositions qui reposent, selon vous, sur des preuves probantes?
Je, je ne sais pas. Vous savez, je suis un scientifique, je travaille sur les données auxquelles j'ai accès. Bon, les choses, les déclarations qui sont faites, bon, Monsieur Elizondo, je ne le connais pas. Il est des questions qui viennent nous voir à un moment donné, et puis ça a été abandonné, mais ça s'est passé dans un cadre par ailleurs, qui est celui de To The Stars Academy. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit. Nous sommes plutôt habitués à travailler dans le calme, et le bruit est souvent un petit peu déroutant.
Mais alors, je vous poserai la question directement, Monsieur Louange, dans votre vie de scientifique, dans votre carrière, est-ce qu'il vous est arrivé d'être en face d'images, qu'elles soient vidéo ou photo, qui vous donnent à penser qu'il y avait effectivement des choses qui ne s'expliquaient pas à ce jour avec nos moyens?
Mais ça nous est arrivé plusieurs fois, et je vous dirais même qu'il nous est arrivé de tomber sur des photos qui ne s'expliquaient pas à un moment donné et qui, quelques années après, ont trouvé une explication parce qu'on avait accès à de nouvelles techniques qui permettaient d'aller beaucoup plus loin. Il faut rester totalement ouvert là-dessus, c'est certain. Quand vous parliez tout à l'heure des raisons pour lesquelles la Navy a sorti ces photos officiellement, ces vidéos officiellement, moi je pense qu'il y a une raison très pragmatique, c'est que elles étaient chez elles. A priori, elles ne devaient pas en sortir. Elles sont sorties en 2017 et depuis, le petit monde des gens qui s'occupent d'OVNI n'arrête pas de bruisser d'un tas de théories dans tous les sens, y compris que cette vidéo serait truquée, etc. On peut comprendre qu'à ce moment-là, la Navy, sachant que à l'intérieur de ces vidéos, de ces documents, il n'existe aucune information réellement classifiée ou sensible, préfère dire bon, ben, arrêtez tout ce bruit. Voilà, nous les mettons sur la table. Ce sont réellement des vidéos de chez nous. Elles sont authentiques. À ce jour, on ne les a pas expliquées. Elles sont inexpliquées à ce jour, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inexplicables. Ça veut dire que, bon, voilà, on n'a pas fait le travail. Et ce travail pourrait être intéressant à approfondir, bien entendu, mais dans ce cas-là, avec les données d'origine, parce que là, il manque des métadonnées, il manque un certain nombre de choses.
Que le Pentagone doit avoir par ailleurs.
Il doit avoir par ailleurs. Mais enfin, bon, partir d'entrée de jeu en disant c'est extraordinaire, c'est probablement extraterrestre, etc. C'est ça qui me gêne un peu. Tant qu'on ne va pas là-dedans, le but est d'essayer d'avancer dans les travaux. Lorsque nous prenons des dossiers avec nos amis et surtout avec l'outil informatique IPACO que nous développons depuis des années avec l'aide du CNES, précisément et spécifiquement pour analyser les photos et les vidéos dans lesquelles il existe des objets dont on ne connaît pas la nature, on commence toujours par une première étape qui est l'authentification. C'est-à-dire savoir si réellement le document n'a pas pu être truqué ou manipulé, etc. Bon, ça n'est pas le cas pour les vidéos dont nous parlons ici.
Ben, on espère bien que si la source et le département de la Défense, ils n'ont pas truqué leurs propres images.
Oui, bien entendu, non, ça j'en suis convaincu. Mais la deuxième étape consiste à faire de l'analyse, c'est-à-dire chercher avec tous les éléments dont on dispose, à cerner les fourchettes possibles de distance, les tailles possibles et toutes ces choses-là. Donc c'est très progressif et très laborieux, scientifique, si vous voulez.
Robert Lamontagne, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien? Est-ce qu'on vient de perdre 11 minutes à l'antenne?
Non, le phénomène demeure intéressant, mais je donnerai un exemple qui est plus près de mon expertise personnelle. Il y a quelques années, entre autres, on a détecté ce qu'on appelle un astéroïde interstellaire, c'est-à-dire un morceau de roche, un gros caillou qui arrive de loin, d'une autre étoile, d'un autre système planétaire. Mais dans la liste, lorsqu'on l'a découvert, lorsqu'on a observé l'objet, dans la liste des hypothèses qui étaient avancées pour expliquer la nature du phénomène, sa forme, sa trajectoire, etc., il y avait la possibilité que ce soit un engin de fabrication extraterrestre. Qui était une sonde d'exploration. Mais c'était très, très bas dans la liste des explications possibles. Alors, il faut valider l'ensemble des hypothèses et puis aller à toute fin, comme on disait dans les romans de Sherlock Holmes, si on a éliminé tout ce qui est possible, ben oui, on sera peut-être forcé d'admettre, l'impossible. Mais ces hypothèses sont toujours avancées malgré tout.
Mais forcé d'admettre l'impossible, c'est donc de dire au départ qu'on ne veut pas y croire, Monsieur Lamontagne.
Non, c'est-à-dire que c'est pas qu'on ne veut pas y croire, mais comme le philosophe médiéval le disait, il faut, disons, s'en tenir aux explications les plus simples au début, puis voir si elles tiennent la route, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam.
Okay, ben voilà. Alors, c'est sur le tranchant de la lame d'Occam qu'on va se laisser, messieurs Robert Lamontagne et François Louange. Merci d'avoir accepté de venir jouer avec nous ce matin.
Ça fait un plaisir.
Je vous en prie. C'est un plaisir.